Bonjour Nassira El-Mouadem.
Bonjour.
Ça ressemble à quoi une petite ville comme Romorantin?
Ah, ça ressemble à beaucoup d'autres petites villes, sous-préfectures. On est sur un territoire qui est ni rural ni urbain. Une petite ville vraiment très coquette, qui a un héritage industriel, avec des bâtisses qui sont liées à cet héritage-là. Donc c'est très mignon, mais en même temps ça souffre beaucoup, évidemment, parce que c'est un territoire désindustrialisé, avec une précarité sociale et économique qui s'est accentuée ces 20 dernières années.
L'industrie, c'était notamment Matra.
Oui, c'était notamment Matra Automobile qui a fermé très brutalement en 2003. L'annonce est faite aux salariés en février, quelques jours avant d'ailleurs la mort de Jean-Luc Lagardère, qui était l'actionnaire principal de Matra Automobile. Et puis la fermeture se fait en juin. Donc tout est très rapide, très brutal aussi forcément pour les salariés et leurs familles. Et c'est cet héritage-là que Romorantin continue à avoir, même si en fait aujourd'hui il reste très peu de stigmates et de marques de cet héritage-là.
Est-ce que cet héritage-là, c'est ça aussi qui, à Romorantin, comme peut-être ailleurs, a pu nourrir le mouvement des Gilets jaunes?
En tout cas, on m'en parle beaucoup. Les Gilets jaunes me parlent beaucoup effectivement de cette prospérité économique, de ce temps où Romorantin vivait bien. Les Gilets jaunes de Romorantin, c'est quand même beaucoup de gens qui ont entre 50, 60, 65 ans, qui ont vécu cette période-là et qui forcément se comparent aujourd'hui à ce qu'ils étaient à l'époque, où on ne se souciait pas du lendemain, où on pensait qu'on allait avoir du travail en éternité, où on ne s'imaginait pas ne plus pouvoir financer les études de ses enfants. Bref, c'est une ère de l'insouciance. Effectivement, les Gilets jaunes de Romorantin, en tout cas, se positionnent beaucoup par rapport à ce passé-là qui n'existe plus aujourd'hui.
Vous, journaliste, montez à Paris, vous êtes retourné sur place et vous avez justement retrouvé une amie d'enfance qui est devenue gilet jaune.
Oui, alors Romorantin, je ne l'ai jamais vraiment quitté parce que j'ai encore mes amis, ma famille. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais ce projet-là de revenir à Romorantin pour tout simplement faire mon travail de journaliste chez moi. Parce que des territoires abandonnés, comme on dit, j'en ai beaucoup couvert, que ce soit dans le bassin minier, pour les bonnets rouges en Bretagne, Florange, ArcelorMittal, et je pourrais encore en donner plusieurs. Mais j'avais vraiment envie de faire ce travail chez moi avec un défi, c'était de se dire, bah, est-ce que je peux faire mon travail de journaliste avec la distance nécessaire auprès des miens? La réponse est oui. Et donc Caroline, je la retrouve et j'en retrouve d'autres qui me racontent tout simplement leur quotidien.
Et parmi ces gens qui sont là à Romorantin, il y a beaucoup de gens issus de l'immigration.
Oui, parce que c'est effectivement mon environnement de proximité, c'est mon passé, mon présent aussi, puisque mes amis proches d'enfance sont des filles d'origine marocaine, d'origine algérienne, d'origine turque, etc. Et moi, ce qui m'a intéressé dans le portrait que j'ai voulu faire de Romorantin, c'était de raconter aussi ces histoires aujourd'hui françaises, mais qui sont des histoires avec une ascendance immigrée, complètement insérées, non pas dans un territoire autour des grandes métropoles, mais dans une petite ville. Elle passe complètement en dehors des radars, c'est-à-dire ces immigrés qui sont arrivés, pour certains, pour travailler avec la terre. Par exemple, les Turcs qui sont arrivés de la première génération ont beaucoup travaillé dans la sylviculture, ont ensuite travaillé dans les champs, les asperges, les fraises, et qui continuent encore aujourd'hui, parfois de l'autre côté. Certaines familles maintenant sont propriétaires de terrains, cultivent elles-mêmes les fraises, par exemple, ou continuent à travailler à la saison dans ces productions-là. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir aussi mettre des visages et mettre des parcours de vie sur ces histoires-là qui sont assez marginalisée dans le débat médiatique.
Et des histoires aussi édifiantes de femmes de ménage, par exemple.
Oui, Lucia, qui est ma voisine d'enfance, qui est toujours d'ailleurs la voisine de ma maman, et qui en fait m'avait ouvert les portes quand j'étais étudiante. Je venais d'avoir mon bac, pouvoir avoir un petit boulot pour aller nettoyer les toilettes des cottages du fameux parc à côté de chez nous qui s'appelle Center Park, qui est prisé par les Parisiens. Et Lucia, je la retrouve quasiment 20 ans après, et elle est toujours femme de ménage. Et donc elle me raconte à quel point elle a l'impression que son employeur les maltraite, elle, les femmes de ménage qui ont tant donné depuis des années. Elle est touchante, Lucia, parce que elle a tout donné en fait pour ses enfants. C'est une dame qui a été mère célibataire pendant des années. Maintenant, ses enfants sont grands. Mais elle me raconte son parcours depuis l'Érythrée qu'elle a quittée à la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, c'est typiquement le genre de portrait que j'avais voulu mettre en avant, qui malheureusement je trouve pas assez valorisé médiatiquement parlant.
Merci, Nassira El-Mouadem.
Merci à vous.